de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. Pour nous intéresser, vous l'avez peut-être entendu, au loup aujourd'hui. Et pas seulement dans sa version grand méchant loup. Qu'on les adore ou qu'on les déteste, les loups, ces mythes vivants, ne laissent personne indifférent. Et pourtant, on les connaît très peu, très mal, peut-être parce qu'ils savent si bien se rendre invisibles, mais aussi parce que ces prédateurs, solitaires mais aussi sociaux, ne correspondent pas vraiment aux clichés qui peuplent notre imaginaire. La complexité de leur mode de vie, leur beauté, leur fragilité d'animaux sauvages se révélerait-elle encore plus fascinante que nos représentations? C'est ce que nous vous proposons de découvrir au plus près des loups avec notre invité, le naturaliste de terrain Pierre Rigaud, autour de la question qui sont les loups et comment vivent-ils? Bienvenue sur leurs traces, ici comme ailleurs.
Autrefois, les loups peuplaient la quasi-totalité du pays. Aujourd'hui, ils restent sous ces latitudes. La meute la plus au sud vit ici, tout près des rives du Mississippi. La neige qui vient gonfler les eaux du fleuve rend la chasse plus facile pour les loups. L'épaisse couche au sol ralentit les proies dont ils se nourrissent.
C'est le titre du très bel ouvrage que vous venez de publier aux éditions de La Chaux et Niesley. Pierre Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous, pour nous faire découvrir, donc au-delà des clichés et des fantasmes, la vraie vie des loups, leur petite et leur grande histoire, celle tumultueuse aussi que nous entretenons, nous les humains, avec ces grands prédateurs qui nous fascinent et que nous connaissons si mal. Pierre Rigaud, vous êtes un naturaliste de terrain, biologiste de formation, vous êtes aussi militant pour l'écologie et la protection des animaux. C'est peut-être cette double casquette, à la fois de rigueur scientifique et d'engagement militant, qui vous permet de porter un regard, si ce n'est neuf, en tout cas pas naïf du tout, sur ces animaux sauvages par excellence, les loups, qui ne sont donc ni des grands méchants, ni des grands gentils, évidemment, au fond, qui ne sont ni à diaboliser, ni à angéliser non plus, c'est ça ?
Oui, l'idée est de ne pas avoir un regard qui soit binaire et basé sur des préjugés, parce que c'est vrai que tant les gens qui détestent les loups, ils sont nombreux, tant les gens qui les adorent ont parfois des opinions un petit peu tranchées de façon trop radicale, sans tenir compte des faits de la biologie. Et les loups, comme vous le disiez en présentation, sont difficiles à comprendre, à observer, à ne serait-ce qu'à percevoir, et donc parfois on se réfère à des images qui sont un petit peu trop figées. Et quand on a une vision peut-être parfois un petit peu angélique, quand on prend les loups pour des animaux, trop gentils, ou alors au contraire trop méchants, ça paraît idiot de le dire comme ça, mais ça entraîne finalement des comportements de nous autres humains qui se traduisent très concrètement dans l'histoire d'ailleurs, qui ont été traduits dans l'histoire par des envies, par exemple, d'éliminer les loups radicalement. D'autres fois, on les adule. Et moi, je me situe très clairement, bien sûr, du côté des protecteurs des loups. Mm-hmm. Ça fait partie de ce que j'essaye de faire, mais avec un regard le plus objectif possible, même si on ne l'est jamais complètement. Mais au moins en se basant sur ce qu'on en connaît en termes de faits scientifiques et de comportements avérés de ces animaux.
Alors, on va découvrir avec vous, justement, la vie intime, la vie des loups. Est-ce que ça peut nous dire à nous humains, comment ça nous renvoie à nous-mêmes aussi? Pourquoi et comment vous-même, Pierre Rigaud, vous êtes naturaliste, vous êtes intéressé de si près aux loups? Est-ce parce que vous vivez, j'ai envie de dire, presque sur leur territoire, dans les préalpes de Haute-Provence?
Oui, j'aime à dire que je vis en plein territoire de loups, comme plein d'autres gens qui, ne serait-ce que lorsqu'on vit par exemple dans le sud-est de la France, eh bien, on partage nos territoires, nous humains, avec des loups, comme c'est le cas de plein de gens dans le monde finalement. Et les loups ont leur territoire, nous humains, on a nos territoires, puis ça s'entrecroise. Alors bien sûr, on les voit très rarement, eux, ils ont plus l'occasion de nous observer de façon discrète et cachée. Mais en effet, c'est notamment ça qui m'a donné envie d'essayer de les connaître plus, avec toute la prudence qu'on peut avoir, parce que même en vivant auprès d'eux, ils sont tellement difficiles à observer qu'il faut être très patient. Il faut la plupart du temps se baser sur des observations indirectes, des traces, des...
Oui, parce qu'ils ont vraiment l'art de se rendre invisibles, les loups. C'est peut-être aussi d'où vient la frayeur qu'on peut avoir vis-à-vis de ce grand prédateur.
Oui, et ils se rendent invisibles aussi parce que dans l'histoire, nous humains, on les a persécutés terriblement depuis des milliers d'années. Alors, c'était très ambivalent parce qu'on a aussi parfois tenté de se rapprocher des loups, mais quand même, on a tellement eu d'acharnement à vouloir les faire disparaître dans beaucoup de régions dans le monde que ceux qui ont survécu et sont sans doute ceux qui ont été le plus discrets, qui ont le mieux su éviter parfois la folie des hommes, ou parfois c'était justifié peut-être à une certaine époque, dans un certain contexte, mais il y a souvent eu beaucoup de diabolisation de ces animaux, et donc maintenant ils se font discrets parce que en général ils savent que ils sont pas les bienvenus chez nous, quoi.
Alors est-ce que ça a toujours été le cas, hein, autour de la question qui sont les loups? On comprend bien qu'il est difficile de les étudier, de les approcher. Ces animaux sauvages, hein, on le rappelle, prédateurs, carnivores, ce qui a aussi contribué à leur légende, mais aussi à leur mythification. Bah, ce sont pourtant des loups, hein, ces meilleurs ennemis de l'homme, qui ont été les ancêtres des chiens, devenus le meilleur ami de l'homme. À ce sujet, une question pour vous, soulevée par une préhistorienne qui aime bien, elle aussi, décaler le regard, Marilène Patou-Mathis, du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Moi, j'ai une question à propos du loup. Évidemment, nous avons maintenant des preuves que le loup a été domestiqué il y a fort longtemps, puisque c'est dès le paléolithique. Certains pensent même vers 30 000 ans. Donc c'est très très ancien. Et je souhaiterais avoir une confirmation sur mon hypothèse sur la domestication du loup. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'ils étaient déjà très commensaux, c'est-à-dire qu'ils vivaient à proximité des campements, profitant des déchets, parce qu'on a des traces sur les ossements qui montrent qu'ils sont rentrés dans les campements, qu'ils ont rongé les eaux. Donc, qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous, Pierre Rigaud? Les hommes ont-ils sélectionné les loups les moins sauvages, les plus commensaux, pour faire leurs compagnons?
C'est une hypothèse, et je n'irai pas plus loin qu'une hypothèse, figurez-vous. Mmh. On peut pas en être certain, mais ça paraît vraisemblable. Ce qui est certain, c'est que effectivement, les loups ont toujours vécu à proximité des humains. On a l'image parfois des loups comme étant des animaux qui vivent loin de nous. Mmh. C'est pas parce qu'ils sont discrets en général aujourd'hui qu'ils vivent loin de nous. On partage les territoires depuis des milliers d'années. Et très vraisemblablement, les loups avaient peut-être, pour certains d'entre eux, un comportement un petit peu différent il y a plusieurs milliers d'années qu'aujourd'hui, lorsque les humains étaient beaucoup moins nombreux à la surface de la Terre, et lorsque dans les campagnes ou les forêts, bon, les campagnes, ce n'était pas encore des campagnes, mais en tout cas dans les milieux naturels de l'époque, il y avait des loups, enfin, on croisait des loups. Et effectivement, les loups se sont rapprochés des humains, ou les humains se sont rapprochés des loups, jusqu'à en faire des chiens. Et la domestication, elle date en effet de peut-être 30 à 35 000 ans selon les études, parfois un peu moins. Et alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit on a, par exemple, récupéré des louveteaux d'une manière ou d'une autre, de façon à les faire grandir au milieu des humains, en sélectionnant ceux qui étaient peut-être le moins farouche, ou ou les plus susceptibles de vivre à nos côtés, peu à peu comme ça. Soit ce sont les loups en effet qui se rapprochaient des campements. Alors c'est, effectivement ça s'est produit, mais est-ce que c'est ça qui a fait qu'on en a domestiqué certains? Ça fait partie des hypothèses. Toujours est-il qu'il y a certains anthropologues qui vont jusqu'à dire que, et c'est tout à fait vraisemblable, les loups et les humains ont à une époque de l'histoire chassé ensemble, et que le fait que les loups s'associent aux humains, ou plutôt les humains profitent des loups selon comment on voit les choses, eh bien ça a permis que l'espèce humaine, au moins dans certaines régions du monde, ait pu avoir plus de succès en termes de réussite de chasse, et ensuite les loups pouvaient profiter des proies tuées par les humains, en tout cas des restes, et ça aurait aidé le développement de notre espèce il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est là tout le paradoxe, en fait, c'est que à la fois on a eu une histoire un peu parallèle qui s'entrecroise, avec une domestication et parfois ensuite une utilisation des loups devenus ensuite des chiens, et d'autre part des loups pouvaient poser problème aux humains, et en fait ça s'est surtout développé à partir de l'agriculture et de l'élevage, puisque évidemment les loups s'en sont pris alors aux animaux domestiqués pour l'exploitation par les humains. Et donc à la fois comment dire, l'amour-haine des loups qu'avaient les humains, ouais. Ça commence déjà à cette époque-là.
C'est ça.
Et on la retrouve ensuite aujourd'hui.
C'est paradoxal, c'est extrêmement intéressant. On se dit aussi que dans ces amour-haines ou dans ces proximités, il y a quelque chose en commun, tout de même, il n'y a pas que ça, mais quelque chose en commun entre les hommes et les loups. Les loups sont des animaux à la fois qui vivent en solitaire et à la fois qui vivent en meute et qui sont des animaux sociaux. Il y a les deux aspects.
Oui, oui, oui. Alors, comme les humains d'ailleurs, même si on est quand même beaucoup plus sociaux, mais disons que un loup cherche à vivre en bande, en clan, en groupe familial, et simplement à une époque de sa vie, il peut être solitaire pendant des mois, parfois des années, à un moment de sa vie qui est celle de ce qu'on appelle la dispersion, qui est un phénomène biologique qui existe chez d'autres espèces, particulièrement de mammifères, mais pas notamment, et qui vise à gagner du terrain quand une meute, un clan a trop d'individus en son sein sur un territoire, il n'y a plus assez de place, et donc il faut que l'espèce,
disons, parte tout seul.
Voilà. Qui partent tout seuls et qui partent à l'aventure, parfois très très loin. Ça peut être des centaines de kilomètres, parfois plusieurs milliers de kilomètres.
Pour explorer de nouveaux territoires.
Exactement. Et à ce moment-là, le loup qui vivait jusqu'alors de façon assez protégée au sein d'un groupe, eh bien, est obligé de vivre de façon solitaire, de chasser tout seul, en territoire inconnu pour lui. Donc sa vie, à ce moment-là, est beaucoup, beaucoup plus compliquée. Mais il est armé, si je puis dire, pour ça. Le fait que les loups vivent en groupe, ça fait aussi de cette espèce une espèce qui a des caractères quand même assez proches de la nôtre ou d'autres primates ou d'autres mammifères sociaux. Parce que quand on vit en groupe, eh ben, y a besoin pour que le clan reste soudé, qu'il y ait par exemple de l'empathie entre certains membres du groupe.
De l'empathie chez les loups. Les loups sont empathiques entre eux, dans leur meute.
Oui, absolument. Alors là aussi, ce n'est pas une particularité des loups, ni une particularité humaine, bien sûr, mais il se trouve que c'est en effet développé chez les loups. Mais à contrario, il y a aussi de l'agressivité parfois entre individus. Et pour que le clan reste soudé, que ça ne devienne pas un déchirement permanent, eh bien, il y a des mécanismes d'apaisement des conflits, d'apaisement des tensions.
Comment les loups apaisent les conflits et les tensions entre loups?
Par des mimiques, parce que faudrait pas qu'ils en viennent au croc assez vite. Et on retrouve ça aussi chez d'autres espèces, à savoir que si les individus s'entretuent en permanence, c'est pas très viable et ça fonctionne pas. Mais pour autant, il y a des individualités qui s'expriment. Et puis il y a quand même une hiérarchie un petit peu qui s'exprime de façon plus ou moins forte, même si on l'a beaucoup exagéré. Et donc la résolution des conflits naissants, en tout cas l'apaisement de ces tensions, c'est souvent par des mimiques, par ne serait-ce que des regards, des retroussements de babines de la part disons du loup qui est un petit peu plus agressif, en tout cas qui fait valoir par exemple sa domination.
Il s'impressionne, quoi, c'est comment s'impressionner.
Absolument. Et alors celui qui est la cible, disons, de la mimique de domination, d'agressivité, eh bien celui qui est impressionné, qui est impressionné, qui subit ça, eh bien de façon assez spontanée, il a lieu une contre-mimique, on pourrait dire, qui consiste à dire oui, j'ai compris, je ne pousse pas plus loin le conflit. Et sa façon de se tenir, par exemple, en mettant les oreilles, le dos, en courbant les chines, en fait, l'expression est assez bien trouvée, en plaçant sa queue d'une certaine manière, etc. Et surtout dans son faciès, la façon dont il regarde et il positionne sa tête par rapport à l'autre loup, eh bien, ça fait que le loup agresseur, entre guillemets, va s'arrêter là. Il n'y aura pas plus de conflits, même si ça ne marche pas toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spontané et qu'on retrouve chez d'autres mammifères, y compris les humains.
Dans le regard des loups, sur le visage des loups, en tout cas ces loups, ils habitent majoritairement dans les régions du Nord, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, mais ils auraient aussi, peut-être autrefois, peuplé d'autres continents. C'est tout le sens de la question soulevée par un autre naturaliste, ornithologue, Marc Duquet, qui était récemment notre invité.
Il y a quelques années, on a découvert la présence de loups en Afrique et suite à des analyses génétiques, ce sont des loups qui étaient à la base confondus avec des chacals, tout bêtement. Et on pensait qu'il n'y avait pas de loups en Afrique, mais des analyses génétiques ont montré que Canis lupus, vraiment la même espèce que celle qui est en Europe et même en Amérique du Nord, est présente en Afrique. Je veux savoir s'il y avait des avancées dans ce domaine, parce que suite à deux publications qui ont été faites il y a quelques années, j'ai rien revu à ce niveau-là, savoir si ça a été confirmé, si on en ce qu'on sait de plus sur la présence du loup en Afrique.
Vous avez des informations, Pierre Rigaud, sur les loups, la présence des loups en Afrique?
Alors c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant parce que ça montre le côté cryptique, on va dire, de ces animaux. C'est très complexe, à savoir que, comme vous le disiez, les loups qu'on retrouve dans quasiment tout l'hémisphère nord, enfin en tout cas de façon, disons, un peu originelle avant que les humains les éliminent de beaucoup de régions du monde, c'est une seule et même espèce, sauf en certains endroits particuliers du monde. Et en Afrique du Nord, on croyait que c'était des chacals jusqu'à très récemment parce que les loups, en fait, à travers le monde, ont des morphologies, des tailles, des gabarits, des fourrures très différentes. Forcément, quand un loup vit au Groenland ou quand un loup vit sur le pourtour méditerranéen, ben, ils n'ont pas la même allure.
Bien sûr.
Et ils s'adaptent à leur environnement comme ça aussi, à l'échelle de l'évolution des espèces. Et en Afrique du Nord, ce qu'on pensait être des chacals, on avait toutes les raisons de le penser parce qu'ils avaient une physionomie, si on peut dire, qui ressemblait en tout point à ce qu'on pensait être des chacals, plutôt de gabarit très modeste par rapport au loup qu'on connaît par exemple en Europe, une fourrure un petit peu couleur sable ou fauve et un museau un petit peu plus fin, et on s'est rendu compte par la génétique, parce que désormais c'est la génétique qui nous apprend beaucoup de choses sur l'évolution des espèces. On s'est rendu compte que d'abord c'était pas vraiment des chacals, c'était plutôt des loups. On a pensé d'abord les chercheurs qui ont étudié ça, généticiens, que c'était un loup d'Europe, ou en tout cas la même espèce qui serait passée de façon discrète en Afrique avec une forme un petit peu différente. Et désormais, on est plutôt, l'hypothèse la plus récente, ce serait qu'il s'agit d'une espèce distincte, c'est-à-dire un autre loup qui n'est ni un chacal ni un loup d'Europe. Et en fait, tout ça est, comment dire, tout ça est très mouvant parce que à la fois les loups au sein de la même espèce sont assez différents entre eux selon la région du monde parce qu'ils ont su s'adapter comme ça, et à la fois ils peuvent être, en tant qu'espèce, assez proches d'autres canidés, qui sont les chacals en Afrique, mais qui sont aussi les coyotes en Amérique du Nord. Et leur histoire est faite d'entrecroisements aussi entre les différentes espèces. Ils appartiennent, pour une bonne partie d'entre eux, à ce qu'on appelle le genre Canis, que ce soit Canis lupus, le loup, Canis aureus, une des espèces de chacals. Et puis en Afrique du Nord, ce serait maintenant le loup doré africain, qu'on appelait autrefois, il n'y a pas si longtemps, le chacal doré d'Afrique.
Loup doré africain. Et est-ce qu'entre eux, enfin, est-ce qu'on le sait, ça, vous parlez, ce sont vraiment des espèces différentes, est-ce qu'ils pourraient se reproduire? Est-ce qu'on pourrait imaginer des hybrides? Alors, loup-chien, loup doré, enfin, est-ce qu'on sait s'ils pourraient se reproduire si...
C'est tout à fait possible, et c'est toute la difficulté de comprendre ces évolutions-là qui se font à l'échelle de milliers et de millions d'années. C'est-à-dire que les espèces évoluent au sein de ce groupe, parmi les différents loups, parfois avec, selon les critères qu'on utilise, en fait, selon les critères que les généticiens ou d'autres biologistes utilisent, on dit que c'est une espèce ou une sous-espèce. Et parfois, la distinction, elle est très très subtile, et en fait... Avant, on était sur un peu un dogme en biologie d'une manière générale qui consistait à dire entre des espèces distinctes, les individus ne peuvent pas se reproduire et donner des descendants fertiles. C'est un peu une définition classique. Maintenant, on modère un petit peu ça. Et on se rend compte que c'est beaucoup, comment dire, plus perméable entre des espèces proches. Et parfois, comme leur morphologie a évolué de façon, convergente entre différentes lignées, différentes branches dans plusieurs régions du monde, si vous me suivez bien, et bien parfois on les confond visuellement et on se rend compte que finalement elles peuvent être à la fois très semblables mais ne pas se reproduire entre elles de façon fertile, ou parfois être assez différentes sur un plan morphologique mais qu'elles peuvent se reproduire entre elles. Donc c'est perméable en fait, et c'est ça que je trouve passionnant en fait, c'est beaucoup moins figé que ce qu'on pouvait imaginer.
Jusqu'où nous entraîneront les loups? Alors on va quitter le loup doré d'Afrique du Nord pour retrouver ceux qui vivent dans les forêts du Nord et de l'Est, pour hurler avec les loups, les grands méchants, mais aussi les heureux loups dans la forêt. Morceau signé du groupe Bratch sur RFI. Et...
caché là, dans sa barbe évidemment, il riait fort caché là, voyez pourquoi. Tous ignoraient qu'un loup pouvait cacher là, tranquillement patienter, tout ce temps-là caché là, il y était quoi. Sur la tête c'était belle à croquer, au princesse qui se lamentait, tout le jour enfermé dans son palais doré. On voulait la marier et ça urgeait, ne me demandez pas pourquoi. Secret d'état de tous ceux qui décidaient. Que voulez-vous, le monde est fou. Que
château, le renard parle montais. Avec le roi, voyez ça, comprenez par les montais. Voyez pourquoi. Il proposait droit de multiplier. En quelques heures, sa fortune, si au jeu il se pliait, c'était son droit. Il voulait en manger pour se refaire en quelques soirées au poker. La moitié des écus super du roi prospère. Celui-ci ne voyant pas la malice, alla questionner ses ministres. Et tous applaudissent l'artifice et justice. Et un voyageur est arrivé au château. C'était un sumo très beau qui allait dormir au château. Voyez pourquoi. La belle princesse sortie de son apathie, sitôt qu'elle l'a vu, lui prit l'envie d'être tout à lui. Robin pour toi. Un grand amour est né, très passionné. À peine a-t-il sorti son nez, que de grosses nuées déjà sur lui planaient. Car le sultan s'est avéré vénal, ruiné le château, mis à mal. Perdu son adresse, c'est normal et banal.
Le relou dans la forêt du groupe Bratch sur RFI. Autour de la question qui sont les loups, heureux peut-être, mais invisibles la plupart du temps. Le loup surgit sans qu'on s'y attende. Hein. C'est une de ses caractéristiques. Nous avait expliqué Pierre Rigaud que c'est peut-être aussi parce que les hommes les ont toujours pourchassés. En tout cas, ils savent se rendre invisibles. Difficile de les voir, difficile de les pister. Dans votre ouvrage, Pierre Rigaud, Loup, un mythe vivant, il y a vraiment des photos extraordinaires. Rien que la photo de couverture avec ces deux regards de loup. Comment est-ce qu'on fait pour photographier, enfin pour approcher et photographier des loups?
Alors déjà, je dois dire que dans ce livre, aucune des photos n'est de moi, ben tout simplement. Oui. Alors moi, je prends quelques images, mais c'est pas du tout ma spécialité. C'est pas à ça que je consacre beaucoup de temps. Mais il y a des photographes talentueux. Alors selon les endroits dans le monde, on peut quand même parfois les observer un petit peu moins difficilement, surtout dans les régions où le paysage est assez dégagé, steppique. Alors plutôt dans le Grand Nord, mm-hmm. tout simplement parce qu'on voit de loin. Tandis qu'en milieu forestier, franchement, c'est très très compliqué. Il faut que le loup sorte du bois pour qu'on puisse avoir la chance un jour de le voir. Voilà. Et alors dans le livre aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de scènes de la vie du loup, loups qu'on a voulu illustrer, des scènes très rapprochées, notamment avec les jeunes, etc.
Absolument.
Et dans ces cas-là, on a utilisé, et ça n'est pas caché, des photos prises en captivité pour une partie, parce que tout simplement, c'est impossible d'avoir des images de qualité suffisante pour illustrer tous les moments de la vie des loups. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de photos prises dans la nature par en fait des photographes du monde entier, parce que l'idée c'était de montrer la diversité des loups sur plusieurs continents et de montrer qu'il y avait non seulement une diversité des aspects des loups, mais une diversité de comportement aussi.
Oui, diversité de comportement, c'est fascinant, et vous le dites effectivement, ces photos de meutes, de familles de loups sont insensées, on les a jamais vues aussi près, et c'est vrai que c'est parfois en captivité que les chercheurs peuvent vraiment les étudier, même si évidemment ça peut impliquer des biais autour de la question qui sont les loups, qui sont les papa-loup et pourquoi sont-ils exemplaires? Je vous propose tout de suite un extrait d'un documentaire animalier diffusé sur France 2 intitulé « Les super papas de la nature » consacré au papa-loup donc et signé Pascal Cardeillac, tourné dans le parc animalier de Pêcheret dans la Sarthe.
L'image du loup est souvent celle d'une espèce agressive. Pourtant, dans les moments intimes, il se révèle être un père extrêmement doux et présent pour l'éducation des petits. Il n'y a que le mâle dominant qui puisse s'accoupler avec la femelle. C'est la règle dans la harde, cette petite communauté familiale dont il est le chef. Son privilège est cependant accompagné d'un devoir, celui de constamment veiller sur ses enfants. La responsabilité est grande. Car si le leader manque à ses obligations de père, alors ses compagnons de meute ne le respectent plus. En revanche, si ce qu'il fait est juste et dans l'intérêt du groupe, il remporte leur confiance et leur soumission. Le jeune loup a une bonne raison de s'éloigner. Il approche du sevrage. À cet âge, le lait maternel ne passe plus très bien. Son père serait capable de le rechercher sur des kilomètres et des jours durant. Il se sert de son odorat, si développé qu'ils sont plus loin qu'ils ne voient.
Le loup a un odorat extrêmement développé, on va y revenir. Le loup est un bon père, vous confirmez, Pierre Hugo?
Oui, toutefois, je pense que l'extrait que vous avez passé là donne une vision un petit peu trop, à mon avis, paternaliste des loups.
C'est ça, et anthropomorphique un peu, oui. Oui,
oui, alors... Disons qu'on a eu pendant très longtemps, les biologistes ont eu une vision assez pyramidale de la hiérarchie des loups en meute. C'est dû au fait c'est au fait que les loups ont été beaucoup étudiés en captivité, tout simplement parce que c'était comme ça que c'était faisable. Et donc en captivité, c'est un peu comme si on étudiait les comportements de l'espèce humaine simplement en se basant sur ce que font les gens dans des prisons. Vous voyez, ça nous paraît aberrant comme ça, mais c'est ce qui a été fait pour plein d'autres animaux d'ailleurs. Et donc souvent en captivité, il y a plus de tension que les individus, il y a plus de violence, il y a plus donc d'expression de domination et de subordination. Et on s'est basé comme ça sur l'idée du loup alpha et parfois de la louve alpha. En réalité, quand même, c'est beaucoup plus un comportement familial et qui commence par un couple. Et finalement, c'est en fait un loup dans la nature, un loup mâle va chercher une femelle et inversement, forme un couple qui vont faire des petits et c'est comme ça que ça commence une meute de loups, rien de plus. Et lorsqu'ils sont en couple, c'est pas le loup qui domine la louve et ou la louve qui domine le loup. Par exemple, ça dépend des moments de la vie des loups. Ce qu'on peut observer sur, par exemple, nous, ce qu'on met dans la nature, des caméras qui enregistrent automatiquement le passage des animaux, qui les filment un petit peu à leur insu dans la forêt, ben, on voit que c'est amusant, c'est souvent... Je dirais pas toujours, mais c'est quand même très souvent, par exemple, lorsque c'est un couple, la femelle qui passe environ 20 à 30 mètres devant le mâle. Alors, c'est pas systématique, mais voilà, ça veut rien dire
éclaireuse,
de plus.
En éclaireuse.
Ça veut pas dire que la femelle est dominante dans le couple, parce qu'à d'autres moments, ça se passe. Mais tout ça pour dire que c'est quand même beaucoup moins strict et figé que ce qu'on pense. Et ensuite, les louveteaux sont élevés avec des similitudes par rapport à ne serait-ce que l'espèce humaine ou plein d'autres mammifères, à savoir qu'il y a forcément un petit peu de domination des adultes sur les jeunes qui apprennent comme ça la vie et le comportement du père, pour revenir sur la question précisément, est-ce que le loup est un bon père? Oui, absolument, parce que c'est ce qui garantit la vie des louveteaux, que ses parents plus généralement soient là pour évidemment les nourrir, les protéger. Et le loup mâle, dans le cas d'un clan familial, a un grand rôle en termes d'aller récupérer des proies pour nourrir les jeunes. La femelle aussi, dès lors qu'elle peut quitter les petits qui sont restés dans la tanière pour aller chasser elle aussi. Et parfois, ce sont même d'autres individus, si la meute est plus grande, si la famille est élargie, qui participent aussi à nourrir les jeunes. Et il y a tout un tas de relations comme ça entre les jeunes et les adultes. Et qui d'ailleurs, c'est intéressant, conditionne aussi un petit peu la vie future des loups quand ils deviennent plus grands, des jeunes loups.
Et selon qu'ils ont été plutôt dominés, plutôt dominants, plutôt élevés par une famille élargie ou juste le couple de loups et de louves.
Ça, pour l'instant, ça reste un mystère, on peut pas dire. Parce que les loups ont en effet un caractère qui est individuel, qui est très marqué. Et par exemple, il y a des loups qui vont partir à un moment donné de la vie de la meute pour aller conquérir des territoires, comme on le disait tout à l'heure. Et ça, on sait pas exactement, par exemple, s'il y a certains individus qui auraient plus tendance de façon innée génétique, ou si c'est par ce qu'ils ont connu dans leur prime jeunesse, on va dire, au sein de la famille. Et alors, probablement que ça joue, on sait pas exactement comment, mais par contre les comportements des louveteaux qui par exemple réclament de la nourriture de façon assez spontanée aux adultes qui viennent les nourrir, que ce soit leurs parents ou d'autres, eh bien ces comportements là ce quémandage, en fait, c'est comme ça qu'on dit, ça se retrouve aussi ensuite quand les loups sont adultes dans la façon qu'ils ont justement d'inhiber les conflits, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un comportement un petit peu de soumission en disant en envoyant un signal à l'autre, l'adulte, en disant c'est toi qui es dominant pour le moment et je réclame juste soit de la paix soit à manger, voilà. C'est assez spontané les adultes réagissent comme ça.
C'est extrêmement complexe leur rapport. On a nos auditeurs à Kinshasa qui nous pose une jolie question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, mais qui nous dit: est-ce que l'adage l'homme est un loup pour l'homme est une conclusion historique ou circonstancielle? Mais en fait on peut dire ça dans tous les sens, c'est-à-dire que finalement entre l'homme et le loup, il y a des similitudes qui ne sont pas toujours celles que l'on croit.
Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour que les animaux vivent en meute, en clan soudé, il faut de l'empathie. Mais pour que les loups puissent chasser et se nourrir efficacement en tuant des proies, il faut qu'à un moment donné dans leur vie, dans leur vie de prédateur, en fait, ils tuent un animal, un autre mammifère souvent, sans se poser la question de savoir s'ils engendrent de la souffrance.
C'est ça, ce sont des prédateurs, hein, oui.
Ce sont des prédateurs, c'est-à-dire que le même individu, selon les circonstances et selon les autres individus qu'il a en face, peut à la fois exprimer une grande violence qui est indispensable pour lui pour qu'il survive. Parfois peut avoir énormément justement d'empathie pour d'autres loups, et parfois il y a quand même des conflits, notamment entre différentes meutes qui chacune défend un territoire, et il arrive que des loups se tuent entre eux.
Et à ce moment-là, guerre du loup pour le coup.
Oui, et on ne sait pas, par exemple, c'est encore très mystérieux pour nous de savoir si lorsqu'un loup qui a quitté son territoire natal et qui part à l'aventure pour trouver d'autres lieux où s'installer, s'il tombe sur un territoire où il y a déjà une meute de loups, un clan, parfois, il est possible qu'il intègre cette meute, mais parfois, il est possible qu'il se fasse tuer par les membres de cette meute. Et ça, qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Est-ce que c'est uniquement dû au comportement qu'il aura à ce moment-là? Est-ce que c'est dû au caractère propre, en fait, de chaque individu, autant le sien que celui des membres de la meute sur le territoire duquel il est? Donc c'est tout ça garde une part de mystère, et c'est ce qui fait en fait la diversité qui est à mon avis passionnante de ces animaux, c'est qu'il y a une grande diversité en fait des caractères de chacun de ces individus, comme chez d'autres espèces comme la nôtre.
Diversité de caractères, ils se retrouvent sur une chose un peu comme nous les humains, ils se retrouvent pour chanter, crier, hurler, je ne sais pas comment il faut dire ça. Je propose d'écouter les chants du loup, ou les hurlements du loup, recueillis au Centre de protection des loups, fondé par la célèbre pianiste Hélène Grimaud, qui s'est installée dans l'État de New York, où elle a enregistré ses chants de loup dans son Wolf Conservation Center. Autour de la question, qui sont les loups? Pourquoi hurlent-ils? Comment communiquent-ils entre eux? Nouvelle question originale soulevée par un chercheur en psychologie cognitive qui est aussi musicien, Emmanuel Bigan, auteur entre autres de la symphonie neuronale qui mène ses recherches sur les effets et les bienfaits de la musique sur le cerveau humain. On l'écoute.
La question, c'est de savoir si les communications sonores des animaux sont plus proches du langage, c'est-à-dire ont pour objectif de communiquer des informations, ou sont plus proches de la musique, c'est-à-dire ont pour objectif de communiquer des états intérieurs. On ne va pas dire psychologique, c'est peut-être un peu compliqué, mais des états affectifs et émotionnels, etc. On a plutôt l'impression que les langages animaux sont là pour communiquer des informations sur le territoire, sur les prédateurs, sur la conquête amoureuse, donc plus loin des fonctionnalités de la musique. Mais la question est ouverte, et c'est vraiment une question importante.
À votre avis, Pierre Hégo, pouvez-vous répondre à Emmanuel Bigan? Les loups communiquent-ils uniquement pour échanger des informations, ou communiquent-ils aussi leurs états d'âme?
Question hyper compliquée et passionnante. Mmh. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mmh. Alors, a priori, de ce qu'on en connaît, on ne peut pas dire que c'est un langage dans le sens où il y aurait, par exemple, une transmission de concepts, comme on peut le faire, humains, mais un langage qui communique des informations, c'est certain, puisque, par exemple, les loups utilisent les hurlements pour signifier à d'autres loups qu'ils sont maîtres sur leur territoire, en fait. Par exemple, une meute, un clan se réunit et se met à chanter, parce qu'on peut utiliser le terme chanter comme on parle du chant des oiseaux. Finalement, le chant, ça a aussi une fonction biologique et pas seulement artistique, bien sûr. Et le fait que des loups signifient comme ça qu'ils sont en possession d'un territoire, ça a une fonction d'information, d'ailleurs, qui fonctionne bien à très grande distance. C'est très pratique comme système de communication qui peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres.
C'est de loin qu'il y a des loups et que c'est leur territoire.
Voilà. Et d'autres fois, les loups hurlent ou chantent sans qu'on sache du tout pourquoi. Alors, est-ce que c'est nous humains qui ne sommes pas capables de comprendre l'information que veut transmettre le loup? Est-ce que c'est une émotion de l'instant? Je pense qu'il y a quand même aussi une émotion de l'instant. Par exemple, il arrive que des loups réagissent de façon vraiment très spontanée à un événement extérieur en poussant un petit hurlement, et Dans ce cas-là, ça a l'air tellement spontané que moi j'aurais tendance à dire qu'il y a une émotion qui s'exprime, quoi. Mmh.
Et ça rejoindrait aussi peut-être ce que vous disiez, Père Ego, sur la manière dont ils se regardent l'un l'autre, celui qui monte les babines et celui qui se laisse un peu de... Enfin, il y a une communication par le regard, par tous les sens, et aussi peut-être par ses chants, par ses hurlements.
C'est très vraisemblable, mais la difficulté pour nous, c'est que autant les communications visuelles, on arrive à, comment dire, à avoir un peu un référentiel, c'est-à-dire on sait que quand on observe tel faciès, quand le loup se positionne d'une certaine manière, on arrive plus ou moins à dire ça correspond à tel comportement. Mais la différence avec les hurlements, c'est que les hurlements, même quand on écoute ne serait-ce qu'un groupe de, par exemple, de 3, 4, 5 loups qui chantent, si on ne fait que les écouter, on n'arrive même pas bien à percevoir, à différencier chacun des chants entre eux. Pour nous, ça paraît comme quelque chose d'homogène. Mais probablement que les loups ont l'oreille bien sûr plus fine et qu'ils arrivent à distinguer des choses qu'on nous, on ne distingue pas.
Et quels sont les sens d'ailleurs les plus développés chez le loup? L'odorat, il sent beaucoup plus loin qu'il ne voit. Louis, est-ce qu'on sait ça un peu, quels sens sont les plus développés chez le loup?
Louis, l'odorat, ils ont un très bon odorat, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a beaucoup exagéré tous ces sens. Alors, ils ont des sens remarquablement développés par rapport à nous humains, justement en particulier donc Louis et l'odorat, mais pas forcément plus développés que chez d'autres mammifères carnivores, quand on pense aux félins par exemple. Et c'est ça qui aussi, je trouve, assez intéressant sur le plan strictement, disons, biologique, c'est que les loups ont plein de capacités physiques, mais pas tant que d'autres carnivores qui sont moins, entre guillemets, réputés. Et c'est ce qui a fait leur force, finalement, sur le plan évolutif, au loup, c'est la capacité à vivre de façon sociale et à avoir comme ça des possibilités, par exemple, de chasser des animaux, des proies qui sont de gabarits beaucoup plus importants qu'eux-mêmes. Et ils sont moins équipés, finalement. Un loup à taille égale est moins équipé qu'un félin qui a, par exemple, des griffes rétractiles qui sont une arme remarquable pour, par exemple, capturer des animaux. Mais par contre, les loups, ils ont cette capacité à associer leurs forces et à chasser en groupe et à se protéger les uns les autres. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont pu s'installer, conquérir une grande partie des régions de l'hémisphère nord au fil de l'évolution.
Et là encore, les loups peuvent nous parler, à nous les humains, autour de la question du loup et des loups. C'est peut-être la chanteuse d'origine Sami, de Norvège, Marie Boyné, qui les chante le mieux, dans la langue donc Sami. Marie Boyné, le chant du loup sur RFI. Du loup en version Sami, interprétée par la fabuleuse artiste, musicienne et chanteuse Marie Boyné sur RFI. Je pense que ça doit vous parler, Pierre Rigaud.
Ah oui, il y a une histoire tellement riche, culturelle, dans le monde entier, de relations entre les humains et loups d'imaginaire, que c'est toujours. C'est aussi pour ça que les loups sont passionnants, et que leur histoire est passionnante. Mais alors, par contre, ce qui est moins, comment dire, ce qui est assez terrible, c'est que, notamment en Scandinavie, les loups sont à la fois assez mythifiés, mais à la fois sont quand même pas mal détestés. Et finalement, ça paraît incroyable que dans ces grands espaces, on peut se dire, il y a beaucoup de place pour les loups, mais en fait, ça fait partie des régions du monde où les loups sont les plus persécutés.
Ouais, oui,
ça qui est terrible, c'est que, ne serait-ce qu'aujourd'hui, la Norvège a très concrètement une politique d'abattage assez systématique des loups. Et il y a beaucoup, beaucoup moins de loups, par exemple, en Norvège qu'en France. Ça paraît fou, mais c'est un fait.
Ça paraît complètement fou, mais revenons en France, justement. Vous habitez dans les Préalpes du Sud, où les loups sont quand même au centre d'un conflit, puisqu'on les a réintroduits dans cette histoire tumultueuse entre les hommes et les loups. On a réintroduit les loups dans les Préalpes du Sud, mais les éleveurs ont peur pour leurs ovins, pour leurs troupeaux, et ça pose vraiment question en France. Où est-ce que vous vous situez, vous, Pierre Rigaud, dans cette... c'est vraiment un conflit qui existe entre défenseurs de loups et puis éleveurs.
Oui, alors d'abord, il faut dire que les loups, attention, n'ont pas été réintroduits dans le sens où il n'y a pas eu de programme de lâcher de loups. Simplement, ils sont revenus vraiment tout seuls à partir des populations qui subsistaient en Italie, pour le cas de la France, puisque l'Italie, contrairement à la France, n'avait pas exterminé tous les loups.
Ah, c'est ça.
Et une petite population dans les années 1970 a été sauvée in extremis. À partir de là, il a suffi qu'on arrête de les tuer massivement pour que les populations peu à peu se reforment et que des loups arrivent à reconquérir d'abord le sud-est de la France et puis maintenant un tout petit peu d'autres régions dans le pays.
Donc les loups sont revenus naturellement en France, mais il n'empêche que ça pose vraiment de grandes questions. Avant de vous laisser finalement répondre à la question que je vous ai posée, je vais vous soumettre celle soulevée par une philosophe qui s'intéresse beaucoup aux questions d'environnement, au lien entre l'homme, la nature et le sauvage. C'est la philosophe Joëlle Zask qui vient de publier Zoo City, des animaux sauvages dans la ville. Alors il ne s'agit pas des animaux dans la ville, mais de la question des loups et des bergers. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement la question de la coexistence avec le loup, en particulier quand elle est posée par des bergers, est une vraie question ? Et qu'est-ce qu'ils pensent justement des rencontres entre les défenseurs des loups et les bergers qui travaillent ensemble pour trouver des solutions à cette coexistence ? Parce que, par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence, un certain nombre de défenseurs de loups maintenant aident les bergers à planter des piquets pour protéger leurs moutons. Est-ce qu'ils ont aussi une voix au chapitre pour... aider à la configuration des troupeaux, de manière à ce que les loups ne soient pas incités à les attaquer, etc., etc. En tout cas, je trouve que c'est un bon exemple justement de recherche, d'ajustement mutuel qui se pose de manière très très cruciale aujourd'hui.
Ajustement mutuel entre les loups, les défenseurs des loups et les bergers et les éleveurs qui veulent protéger leurs troupeaux. Qu'en pensez-vous, Pierre Rigaud? Est-ce que c'est possible?
C'est une question qui devient éminemment politique, politicienne même, je dirais, puisque finalement, si on prend le cas de la France, le loup est une espèce qui est classée protégée parce que l'Europe le demande, en fait. Donc la France applique un peu les obligations européennes en la matière, mais en autorisant et même en encourageant des tirs assez massifs des loups. C'est autour de 20% de la population de loups qui, même un peu plus, est tuée chaque année à la demande de l'État, par des chasseurs, par des éleveurs qui ont le permis de chasse, etc.
Pour limiter le nombre de loups.
Alors oui, officiellement c'est interdit de par la Convention de Berne au niveau européen que les pays comme la France mettent en œuvre une politique de régulation, de limitation, et on a seulement le droit en théorie au niveau des pays de faire en sorte que dans des cas où c'est impossible de faire autrement, on puisse tuer un loup par-ci par-là, voyez. Mais sauf que là, on ne peut que constater, hélas à mon avis, que la France met vraiment une politique en œuvre qui consiste à empêcher actuellement les loups de s'installer au-delà des territoires déjà conquis dans le sud-est du pays. Donc dès qu'un loup s'aventure finalement dans d'autres régions du pays, il y a une volonté des préfets, de l'État, de l'éliminer pour empêcher son installation, tout en faisant en sorte que l'espèce soit maintenue. Voilà.
Et pourquoi, puisqu'on comprend bien qu'il faut protéger l'espèce, mais pourquoi? Parce que ça suscite chez les éleveurs des vraies peurs. Mais des peurs justifiées, des peurs qu'on pourrait effectivement, comme le dit Joëlle Zask, apprivoiser, enfin faire ce qu'il faut pour se protéger des loups, parce qu'ils ont de quoi avoir peur, les éleveurs. Mais est-ce qu'il y aurait des pistes possibles et pourquoi ça ne marche pas?
Oui, alors je ne dirais pas que ce sont des peurs dans le sens où c'est plutôt le fait que la présence des loups, de manière très objective et concrète, change le travail des bergers qui sont désormais obligés de prendre en compte l'existence tout simplement d'un prédateur, de leurs moutons, leurs brebis qui étaient jusque-là pendant quelques décennies laissés sans grande surveillance. Il faut rappeler qu'en France, l'absence des loups, elle a duré seulement 60 ans à l'échelle du pays et un petit siècle si on prend ça de façon plus large. Autrement dit, nous avons coexisté avec des loups pendant des milliers d'années, et puis il y a une petite parenthèse de quelques décennies qui correspond à une ou deux générations de bergers qui maintenant sont obligés, depuis le retour des loups il y a tout de même maintenant depuis les années 80-90, de faire autrement. Et donc en fait il y a des bonnes volontés de la part de certains protecteurs des loups et de la part de certains bergers de coexister en effet avec des programmes qui marchent, hein, qui sont des programmes de, je pourrais dire, vraiment de bonne volonté de cohabitation. Mais il y a surtout, il faut bien le dire, parce que j'en sais de façon assez précise, puisque je suis aussi dans les réunions et autres concertations de l'État qui met tout le monde autour de la table. En fait, il y a une énorme pression du monde de l'élevage pour éliminer au maximum les loups. Et finalement, l'État français, hélas, est beaucoup plus dans une politique de tir massif plutôt que dans une politique de coexistence. Et
pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas
pouvoir être plus optimiste.
À couper avec cette histoire-là, parce que finalement, le loup reste l'ennemi. On n'arrive pas à en sortir de cette représentation-là.
Je crains qu'on n'arrive pas à en sortir de tout temps. En fait, la principale difficulté de cohabitation entre les humains et les loups, c'est pas les loups qui faisaient peur aux humains, c'est surtout les loups qui s'en prenaient aux animaux domestiqués pour l'élevage. Et alors avec des hauts et des bas selon les périodes, selon les endroits. Mais c'est quasiment partout dans le monde ce point-là qui achoppe. Deux prédateurs qui n'a pas du tout besoin de manger des moutons puisqu'il a assez à manger dans les forêts, particulièrement en France. Hein, il y a des chevreuils, cerfs, des sangliers. Mais sauf que il y a vraiment, je pense maintenant, après avoir été peut-être moi-même plus, disons, de bonne volonté pour cohabiter, comme le font encore des programmes dont on parlait à l'instant de protecteurs des loups qui travaillent avec des éleveurs, il y a vraiment une telle détestation, je trouve, qui est vraiment viscéralement ancrée de la part d'une partie importante du monde de l'élevage, que je crains qu'on n'y arrive pas. Je suis désolé d'en arriver à cette conclusion qui est assez pessimiste, mais je trouve qu'on est encore dans un rapport qui est finalement celui d'une domination des humains sur les animaux et sur la planète, sur la nature, disons, qui se traduit à la fois l'utilisation d'animaux comme les brebis, avec une détestation de tout ce qui s'en prendrait à cet outil de production, en fait.
Et c'est ça, on n'apprécie pas les autres prédateurs. On pourrait encore parler des loups, mais malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Pierre Rigaud, d'avoir été en ligne en direct avec nous. Je rappelle le titre de ce très bel ouvrage que vous venez de publier aux éditions Delachaux et Niesley, pour rêver, mais pour découvrir, j'ai envie de dire l'autre, le sauvage dans toute sa splendeur et dans toute sa fragilité. Loup, un mythe vivant, un ouvrage qui dépasse tous les clichés. Merci Pierre Rigaud.
Merci Caroline, merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Lundi, nous serons avec le géohistorien Christian Grataloup qui lui a le don de déplacer notre regard autour de la question, comment avons-nous inventé des continents et les océans ? Il sera question de nos représentations du monde et de ce qu'elles disent de nous, vu d'ici, vu d'ailleurs. On vous invitera à rebattre nos cartes sur RFI. Le prochain journal, c'est dans une minute.